jusqu'à son nouveau domicile. C'est la première fois qu'on se voit, c'est un moment un peu curieux. Évidemment, Lucien Léger, sorti de prison, il n'a pas le droit de s'exprimer publiquement sur les faits. Mais à nous, évidemment, entre nous, on discute de ce qu'on veut. Donc Jean-Louis et moi particulièrement, j'ai beaucoup, beaucoup d'attentes sur sa version, sur tout ça. J'ai d'autant plus d'attentes qu'on a retrouvé les traces de Jacques Salles, qui vit encore. Qu'est-ce qu'il compte faire? Bon, au début, il est un peu évasif, il nous dit « non, c'est encore un peu trop tôt ». Bon. Et puis, je reviens à la charge à une ou deux reprises ensuite. Et puis, à la deuxième reprise, je crois que je suis un petit peu plus ferme.
Interactualité 1966.
Voyons, Léger, est-ce que vous sentez la position impossible où vous me mettez?
Écoute, Lucien, tu vas pas continuer comme ça à observer le silence alors que le dernier des protagonistes est encore vivant, celui que t'accuses. Tu peux pas. On va finir par trouver ça bizarre. On a son numéro, on a son adresse, tu risques rien à le contacter, à avoir cette conversation d'homme à homme avec lui.
Voyons, nous sommes face à face, tous les deux, il y a un courant de sympathie entre un accusé et son défenseur. Vous avez confiance en moi, je crois, alors je vous en conjure, parlez, sinon ma plaidoirie est impossible, parlez. Et j'ai de mon choix, mettons-nous sur un séant, nous sommes en plein délire, monsieur le président.
Et puis voilà, il s'arrête, il me regarde avec un air un peu grave, il me dit « Tu sais Stéphane, j'ai pas du tout envie d'y retourner. » Alors bon, je le regarde, là je comprends ce qu'il veut me dire. En fait, sous la conditionnelle, il suffirait qu'il prenne contact avec Salles et que Salles le signale au procureur et au juge des libertés, Lucien retourne immédiatement en prison. Bon là, je me sens un peu bête avec ma question, parce que je me dis, oui, c'est vrai que c'est lui qui prend les risques et pas moi. Moi, j'ai aucun risque là-dedans, à part celui de vouloir... C'est pas un risque, c'est juste mon petit fantasme d'avancer, de découvrir peut-être la vérité, de jouer un rôle finalement. Il y a de ma part, je pense, un petit peu de narcissisme aussi.
Léger, je vous adjure de parler en Lucien Léger et pas au nom d'un personnage extraordinaire que vous pourriez construire encore. Je vous en conjure, parlez, sinon ma plaidoirie est impossible.
Mais attendez, vous défendez un homme qui ne se défend pas?
Qui reste dans son mythologie, dans son mythe. Oui, mais il nous aide pas, quoi.
Mais ça vous a pas rendu fou?
Ça ne nous a pas empêché de faire le bouquin, c'est tout. Ouais. Mais non, on n'a pas réussi. Il commençait un truc, on avait le magnéto, et puis il parlait d'autre chose, et puis... Mais qu'est-ce qu'il pouvait dire? Soit c'est moi l'assassin, non. Et est-ce qu'il avait aussi pas un peu honte de sa version? Et qu'il avait peut-être pas envie, par sympathie pour nous, de la remettre, quoi. J'extrapole, là. C'est pas que je veux me décharger de quoi que ce soit, mais je pense qu'on a fait le plus ce qu'on pouvait faire, Stéphane et moi.
Et vous vous êtes pas engueulé en disant « Mais dis-nous, il faut que tu nous dises, on a passé des années... »
Non. Non, enfin, on s'est un peu moqué, mais on n'a pas été jusqu'à l'engueuler. C'est vrai. Mais il est mort quand même assez rapidement.
3 ans.
3 ans, quand même. C'est beaucoup 3 ans, c'est vrai.
Le président à son tour s'adresse à Léger. Est-ce que vous avez pensé à ce petit Luc dont vous parlez dans vos lettres? Ce petit Luc qui devait ressembler au petit Lucien Léger que vous deviez être à l'âge de 11 ans. Lui aussi le petit Luc, il attend que vous parliez. Silence. Mais même si c'est vous le coupable, Léger, parlez! Silence.
Lucien Léger, on va se voir régulièrement, donc entre 2005 et 2008. Et en 2008, j'ai un coup de fil. Une journaliste de l'AFP qui me demande des informations sur la disparition de Lucien Léger. Je comprends que son corps a été trouvé chez lui et qu'il était mort depuis maintenant une quinzaine de jours. Voilà. Donc y a un monde qui s'écroule puisque... Nous, Jean-Louis et moi, on est engagé à fond dans la rédaction de notre bouquin. On a un coup, ça porte pas un coup d'arrêt, mais on réfléchit avec Jean-Louis à la poursuite ou pas, puis on décide de poursuivre. J'ai appris la mort de Jacques Salles en 2010, 2 ans après Lucien. C'est pas que c'est curieux, c'est la vie. Jacques Salles a vécu sa vie, et quoi qu'il ait fait, ça n'intéresse que des gens comme moi et Jean-Louis éventuellement. Donc notre bouquin, il paraît en 2012, et c'est un livre qui est un livre finalement très frustrant pour le lecteur, parce que à la fin du livre, on n'est pas parvenu à démêler les fils de cette histoire inextricable. On a réussi à discréditer l'accusation portée contre Lucien Léger et ce qui l'a mené en prison pendant 41 ans. On peut dire aujourd'hui, nous en tout cas on l'affirme, Jean-Louis et moi, que Lucien Léger n'est pas coupable. En revanche, on ne pourra jamais dire que Lucien Léger est complètement innocent.
Et alors donc, votre position commune à Stéphane Troplin et à vous, quand sort le livre, c'est de ne pas trop s'intéresser à Salles, qui est plutôt une mauvaise piste pour trouver l'assassin.
C'est une mauvaise piste pour trouver l'assassin, mais par contre, Salles, c'est un personnage de roman. C'est, comme vous dites, qui aspire à tout ce qui bouge dans cette société. Dieu sait si ça bouge à l'époque. L'occupation, la résistance, les camps de concentration, les retours, la guerre d'Algérie, les guerres d'indépendance, la décolonisation, la France qui s'ennuie, comme dirait Janson Ponté 2 ans avant l'affaire, dans le monde. Voilà, c'est les Trente Glorieuses. Et le personnage, nous sommes un peu restés aussi sur notre faim quand même par rapport à Salles.
Jacques Salles est un simple graphologue, ancien résistant français en Allemagne. On ne peut pas vraiment en dire plus. On donne la version de Lucien Léger. On évoque cette correspondance un peu curieuse en prison, ces 2 lettres envoyées avec comme, ce qui apparaît comme un langage pas codé, mais avec des sous-entendus, mais c'est tout. On ne va pas beaucoup plus loin que ça. Donc notre livre, il est publié en janvier 2012. En septembre 2012, j'ai quitté Paris. C'est terminé. J'ai tourné cette page et je passe à autre chose. Donc je passe véritablement à autre chose.
Philippe Génada, en 2017, vous sortez La Serpe. Comment avez-vous choisi de consacrer votre livre suivant sur Lucien Léger ?
Alors en fait, à chaque fois que je termine un livre, je ne sais pas que je cherche un sujet, mais j'ai l'esprit, disons, qui s'ouvre plus. Mais là, c'est un hasard, c'est tout à fait par hasard. J'avais une émission sur France Inter où je devais rencontrer Henri Leclerc, un avocat très célèbre, un ancien avocat. Il venait de sortir un livre, lui, qui s'appelait La parole et l'action, qui raconte sa vie, un peu. Et donc, je le lis, c'était très intéressant, passionnant, ce type a fait des choses incroyables dans sa vie. Et puis, dans la lecture, il parle de quelques-unes des grandes affaires de sa vie, et en particulier, il parle de Lucien Léger. Jamais de ma vie, j'ai lu ce nom, je ne connais pas cette affaire du petit Luc Taron, je ne connais pas. Il doit y avoir peut-être, je ne sais pas, je vais peut-être dire une bêtise, mais 4-5 pages sur l'affaire Lucien Léger dans son livre. Le soir, j'ai cette rencontre, c'était le soir, et on se retrouve en dehors, après l'émission, tous les deux en dehors de la maison de la radio à attendre un taxi. Et je lui dis, il y a une affaire, maître, qui m'a vraiment beaucoup intéressé dans votre livre, c'est Lucien Léger. Et la réponse d'Henri Leclerc est très curieuse. Il me dit, non, le type était fou, ça doit être lui, il était à moitié fou, il était menteur, c'est du passé, je ne veux plus en parler. Ce qui m'étonnait, parce que Henri Leclerc est un humaniste, quelqu'un qui vraiment a une âme forte et qui s'intéressait à ses clients et qui balaye ça comme ça. Et du coup, ça a eu l'effet inverse de celui que ça aurait pu avoir, c'est-à-dire, puisque lui me dit non, n'en parlons pas, ça n'a aucun intérêt, c'est passé, et il racontait n'importe quoi à ce bonhomme. Ça a eu l'effet inverse et j'ai commencé à. Dès que je suis rentré chez moi, j'ai allumé mon ordinateur et j'ai cherché. Et une des premières choses, en dehors des papiers dans les vieux journaux de l'époque qu'on peut trouver, première chose que j'ai trouvée, c'est. Le voleur de crime de Stéphane Troplin et Jean-Louis Ivani, qui avaient l'air d'être à la fois les seuls 60 ans après, à s'intéresser encore à cette affaire. Et surtout, c'est ça qui m'a happé dès le début. Je n'ai rencontré personne qui puisse imaginer que Lucien Léger n'était pas l'étrangleur et l'assassin du petit Luc Taron. C'était les deux seuls, mais vraiment, j'ai cherché partout. Et donc voilà, je me suis procuré, non sans mal d'ailleurs, le livre de Jean-Louis et Stéphane. Je l'ai lu, mais en deux jours, alors que c'est un gros pavé. Là, après avoir lu leur livre, je me suis dit, je vais écrire quelque chose. Là, c'était une certitude pour moi. Je vais retrouver les dossiers d'instruction, d'enquête, le procès, tout ça. Et donc, mais j'étais dans mes petits souliers, parce que j'ai évidemment compris en lisant leur livre qu'ils avaient travaillé des années et des années là-dessus. Leur livre, chez un petit éditeur, un livre énorme et extrêmement dense et complexe, c'était assez peu vendu à l'époque. Moi, je sortais de la SERP où j'avais eu le prix Femina, où mon livre avait eu énormément de succès. Et donc, j'aurais dit, si vous me donnez l'autorisation, je me servirai de tout votre travail pour en faire un roman qui, j'espère, aura du succès. Jean-Louis Ivani, bon gars, vas-y, fais comme tu veux. Et Stéphane, je sens, un peu gardien du temple, me dit, écoute, viens me voir, il habite en dessous de Saint-Malo. Et je sentais que c'était pas l'entretien d'embauche, mais vraiment l'examen de passage, quoi.
Quand il nous contacte, je suis pas tranquille parce que je me dis, oh là là, il va ouvrir cette affaire qui est pas simple et il va nous fabriquer une vérité. Et c'est pas une vérité qui va forcément servir la cause.
Mais la vérité, c'est la vérité.
Oui, la vérité, c'est la vérité. Mais la vérité, qui peut la connaître dans ce genre de... dans une affaire criminelle, c'est compliqué. On est toujours en train de la construire d'une certaine manière avec une part de subjectif, donc de discutable. Quand on se voit pour la première fois à Combourg, moi je suis un peu sur mes gardes. Et puis on parle. Philippe est quand même, c'est quand même quelqu'un de très sympathique. Donc là, je décide de lui faire confiance, comme j'ai pu faire confiance à Lucien à un moment donné. Je lui dis, voilà, on y va.
Après une dizaine d'années de pause, qu'est-ce que vous ressentez quand vous apprenez que toute cette matière va être remuée à nouveau?
C'est compliqué. Moi, je suis plutôt content. Mais en même temps, comme c'est un livre qu'on a eu... On en sort touché d'un travail comme ça. Notre travail sur Lucien Léger à Stéphane et moi nous a touchés, quoi. Je veux dire, on nous a éprouvés. Et donc, c'est difficile. C'est difficile. Par exemple, pour moi, ça a été un moment difficile. C'est Philippe... nous a fait état de ses recherches. On avait des sortes de débats. Des fois, non. Puis en même temps, je trouvais que ce qu'il disait était très intéressant quand même.
Il y a certaines pièces sur lesquelles lui s'arrête plus longuement. Et ça n'a pas été simple pour moi de voir les pièces réinterrogées, qui fait plus parler que moi je n'ai pu le faire, de m'apercevoir que à des moments j'avais été faiblard.
J'ai tenu à revoir moi-même tout ce qu'ils avaient vu, et c'est des dizaines de milliers de documents, quoi. C'est énorme, c'est le plus gros dossier que j'ai vu pour l'instant, moi, depuis que j'écris ce genre de livre. Et ça a duré longtemps. Normalement, j'écris un livre tous les deux ans. Là, il y a eu 4 ans entre la SERP, mon livre d'avant, et la publication du Printemps des Monstres. Et j'ai eu une correspondance par mail. Si on l'a publié, elle ferait la taille de nos deux livres réunis, presque. Avec Stéphane, un peu avec Jean-Louis, enfin assez régulièrement avec Jean-Louis, mais surtout avec Stéphane. Alors, à propos de Jacques Salles, ma première impression est une frustration, qui est, je pense, la même qu'ont ressenti Stéphane et Jean-Louis, c'est-à-dire l'impression forte, et presque la conviction, mais qui n'est pas étayée par grand-chose, que ce type est louche et qu'il a quelque chose à voir dans cette histoire. Jacques Salles a été le seul, au moment du procès, là il y avait carrément l'étrangleur, Lucien Léger, était pire que le diable, pire que l'ennemi public numéro un, et il y a une seule personne en France qui le défendait, c'était Jacques Salles. Donc ça, une certitude qui a une sorte de binôme assez paradoxal et déséquilibré parce qu'ils ne se ressemblent pas du tout, en tout cas dans les premières couches de surface, entre Lucien Léger et Jacques Salles. Donc, très vite, on s'est rendu compte que le nœud de tout ça, ce qui pouvait éventuellement expliquer toute cette affaire, c'était Jacques Sals. Et donc, en fait, bah, tout simplement, je vais sur Internet, et la grosse différence, parce qu'Internet évidemment existait à l'époque où Jean-Louis et Stéphane faisaient leurs recherches, la grosse différence, c'est Gallica, qui est le site numérique de la BNF, qui est une mine d'or, dont moi je me sers toujours dans tous mes livres. Et donc, bah, je suis allé sur ce site, et je tape le nom de Jacques Sals dans la barre de recherche. Et à l'époque, j'ai eu un résultat, qui était un vieux numéro en 41, je crois, de l'Action française, où son nom était simplement cité, où le journaliste de l'Action française disait « Notre jeune confrère Jacques Sals a cru bon de, je sais plus quoi, de se féliciter de je sais plus quoi, dans les colonnes de l'Union française. » L'Union française, c'était un journal collabo, une petite publication, presque pas un fanzine, mais bon, de la région lyonnaise. Et donc j'ai retrouvé, voilà, comme ça, mais peu à peu... De numéro en numéro, je retrouvais un article de Jacques Sals, un autre, il devenait de plus en plus présent dans les... Et donc je découvre que Jacques Sals, entre 41, donc il a 21 ans, je crois, et 40, le printemps 43, ou fin 42, écrit très régulièrement, prend de l'importance, devient responsable de la section jeune du groupe Collaboration sur Lyon. Et donc c'est vraiment, ce qu'il écrit, c'est vraiment à la fois assez cinglé, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de références à la mythologie celte, enfin il y a tout un discours, toute une phraséologie un peu, qui moi, me dégoûte un peu, et puis surtout, bah, c'est très pro-nazi, quoi. Enfin c'est vraiment, les Allemands vont nous sauver, et vive la jeunesse et tout ça, enfin toute cette idéologie-là. Et à partir de là, tous les soupçons et les impressions, les sentiments qu'avaient eu Stéphane et Jean-Louis se concrétisent, se matérialisent sur quelque chose de vraiment, parce que on savait, et Stéphane et Jean-Louis en parlaient, que Jacques Sals, toute sa vie, s'est présenté comme un résistant, vraiment, qu'il a produit des documents, comme quoi il avait été dans le Vercors, dans le Maquis, un héros de la résistance, vraiment. Et là, tout à coup, on se rend compte que, au moment où il prétend avoir été dans la résistance, hein, il écrivait dans ce journal des horreurs pour faciliter l'arrivée du nazisme en France, quoi.
Comment vous prenez cette nouvelle ?
De la collaboration.
La collaboration de Sals.
Ça me situe le personnage. Il est collabo quand il faut, il est STO quand il faut, il est résistant quand il faut. Vous avez toujours un Jacques Sals là où l'histoire se passe, se déroule. Il lui manquait que ça, la panoplie, quoi.
Moi, je tombe des nues. Vraiment. À partir de là... mon image, l'image que j'ai de Jacques Sals, elle s'effrite et elle laisse apparaître quelqu'un que j'avais un peu pressenti au départ. C'est-à-dire que ces histoires de résistance, au début, m'avaient paru un peu questionnables. Je me disais, tiens, mais est-ce que tout ça est vrai? Ça me paraît quand même, ces histoires de dates. Je me dis, lui aussi, quelque part, il a peut-être fantasmé un personnage qu'il aurait aimé être. C'est possible aussi, hein.
Alors, qu'est-ce que ça apporte à l'enquête de Lucien Léger ?
Alors, ça apporte... parce qu'en fait, c'est Lucien Léger qui a, dans les années 70, après presque 10 ans de silence, qui a nommé et dénoncé Sals comme étant le responsable de la mort de Luc Taron. Évidemment, personne ne l'a jamais cru. Et Sals se défend dans les journaux, fait paraître des droits de réponse, des communiqués, des trucs, en disant « Mais j'ai été un grand résistant, je n'ai rien à voir avec tout ça. » Bon, voilà. Donc, ce que ça apporte à l'histoire, c'est de se dire... c'est qu'on comprend que Lucien Léger, il avait raison, quoi. C'est-à-dire qu'il disait « Sals n'est pas celui qu'on croit ».
Et alors comment on a le sentiment que toute l'enquête est mal partie depuis le départ, depuis les années 60? Parce que pendant le procès et pendant la tentative de révision du procès, l'aura de Jacques Sals, grand résistant, a quand même joué.
Oui, mais alors là, peut-être pour une fois, si l'enquête est mal partie, a été mal menée, c'est pas la faute des enquêteurs, c'est pas la faute ni des policiers, ni du juge d'instruction, c'est la faute de Lucien Léger. Hein. C'est-à-dire que Lucien Léger, quand même, à son procès, où toute la France voulait lui couper la tête, Jacques Sals a témoigné à 3 mètres de lui. Donc Lucien Léger aurait très bien pu dire pendant son procès, c'est ce type qui est au cœur de tout ça. Et non, Lucien Léger est quand même resté 10 ans sans dire un mot de travers. C'est d'ailleurs ce qui, même maintenant, ou même en tout cas avant la publication de nos livres, fait que les gens disent « bah oui, c'est un peu facile ». Mais en réalité, c'est-à-dire que nous, on ne peut pas vraiment reprocher, donc encore une fois, aux enquêteurs de 1964, ils n'avaient aucune raison de se tourner vers Sals. Et ceux de 70, 10 ans plus tard, nous, on a vraiment... Stéphane, Jean-Louis, après c'est un peu désintéressé de Sals, mais on a vraiment cherché, moi ça me rendait fou, non seulement parce que je n'aime pas les choses obscures et qu'on n'arrive pas à éclaircir un peu, et puis surtout, d'une manière peut-être cynique, mais en tout cas c'est mon travail, parce que j'écrivais un livre et que moi je voulais, à la fin de mon livre, pouvoir dire « j'ai la preuve que Jacques Sals est mêlé de très près à la mort de Luc Taron, et que c'est à cause de lui que Lucien Léger a fait 42 ans de prison ». On a cherché, mais comme des fous, avec tous les moyens possibles aujourd'hui, qu'évidemment les gens, y compris le commissaire de la rue, n'avaient pas dans les années 70, ben on n'a rien trouvé. Moi j'avais cette impression d'avoir un collier de perles rares qui vaut une fortune, et qui me manquait juste le fermoir. Et donc le collier ne sert à rien, on ne peut pas se le mettre autour du cou. Et il manquait juste peut-être un 2,5 mm d'espace entre Yves Taron, Jacques Sals et Lucien Léger pour que tout se connecte. On n'a pas réussi à trouver, donc on ne peut pas reprocher aux autres d'avoir raté aussi.
Alors du coup, il reste une solution, c'est le s'en remettre à son intime conviction. Et est-ce que c'est pas à ce moment-là que les choses deviennent dangereuses, parce que subjectives ?
Dangereux, subjectifs sont pas des synonymes, Jérôme. L'intime conviction, c'est utile. D'ailleurs, c'est même reconnu dans la loi française. Hein. On demande aux jurés de juger selon leur intime conviction. Je suis absolument convaincu que Jacques Sals est mêlé de très près à la mort du petit Luc Taron. Donc voilà, moi j'en suis absolument convaincu, mais je n'ai pas de preuves. On peut être convaincu de plein de choses dans la vie et sans avoir de preuves. Hein. Moi je pense, et c'est là encore pas loin d'être une conviction, que tout ce qu'a raconté Lucien Léger sur le réseau d'espionnage pour les communistes, la Chine ou l'URSS, je suis convaincu que tout est inventé et que ça n'a jamais existé. En revanche, je suis tout aussi convaincu qu'il y avait bien quelque chose de l'ordre de la politique qui liait Jacques Sals et Yves Taron, le père du petit, et dont Lucien Léger était un pion, qui a des histoires crapuleuses, c'est-à-dire des histoires de fric, de rançon, etc. Mais là où le bas blesse, là où ça cloche un peu, c'est qu'on n'a pas réussi à emboîter Jacques Sals et Yves Taron. Mais on sait que Lucien Léger connaissait bien Jacques Sals, et réciproquement, et Lucien Léger a donné des choses sur la vie de Taron que personne ne pouvait savoir, que son fils n'était pas vraiment son fils, qu'il avait été mêlé à une affaire de mœurs assez dégueulasse, quoi. Et alors, Taron disait tout est faux, et moi, dans mes recherches, j'ai trouvé qu'effectivement, il avait été mêlé à une affaire de mœurs. J'ai eu beaucoup de mal à consulter, c'est assez curieux, parce que c'était des années après, et que, effectivement, le petit Luc n'était... Donc comment Lucien Léger peut savoir ça autrement que parce que Sals connaît Taron. Et Yves Taron a bien montré ensuite, dans toute la suite de sa vie, que Yves Taron était pour le coup, lui, vraiment un sale type. Quoi.
Mais quand vous parlez de fermoir, la façon dont cette affaire s'échappe si proche, est-ce que vous n'avez pas l'impression, des fois, que les choses étaient écrites comme ça pour que vous butiez à ce moment-là ?
Non. Je sais qu'on peut avoir ce genre de, j'allais dire, de théorie, ce genre de sentiment. Moi, non. Moi, vraiment, Jacques Sals, et alors, encore une fois, là, pour le coup, c'est vraiment subjectif, parce que je ne l'ai jamais rencontré. Pour moi, Jacques Sals n'est pas un manipulateur, un génie, ou quelqu'un qui a testé tous les extrêmes dans sa vie, etc. Jacques Sals est juste un sale type. Quand je vois les faux grossiers qu'il a produits pour toucher du fric, pour faire croire qu'il avait été résistant, alors qu'on n'en a pas parlé, mais moi je pense même à la Bunaverk, près de Halleux, où il était avec les Français qui étaient en STO, Il y avait donc un réseau de résistance qui diffusait des tracts, qui avait fabriqué une radio pour écouter Radio Londres, etc. Et ce réseau a été dénoncé, démantelé, ils ont tous été envoyés en camp. Et j'ai trouvé des correspondances entre membres de ce réseau après la guerre qui étaient persuadés qu'il y avait un traître parmi eux et que c'est l'un d'eux qui a dénoncé tout le réseau, parce que sinon il n'y avait aucun moyen de... Moi je suis persuadé que c'était Jacques Salles. Il est dans ce réseau 2 mois après avoir écrit les pires ignominies dans le journal de Lyon. Il est dans ce réseau, et ce réseau qui doit contenir une quinzaine de personnes, ils tombent tous les uns après les autres à partir du moment où il arrive. Jacques Salles est le dernier arrêté. Encore une fois, je pars dans mes hypothèses, mais ce sont des hypothèses que je tiens profondément dans mon cœur. Donc voilà, je suis persuadé que Jacques Salles a dénoncé tout ce réseau de résistants. Je suis de parti pris, hein, je m'en rends compte, tant pis. J'assume. Quand, pour obtenir sa pension, il produit des certificats médicaux. Mais si tout ce qu'il décrit comme problème qu'il a soi-disant eu à cause du temps qu'il a passé en Allemagne, si tout est vrai, on se demande comment il arrivait à lever le petit doigt ou à faire 1 mètre dans la rue. Enfin, c'est vraiment...
Alors donc, on a fatigue chronique, trouble du sommeil, cauchemar, hyperémotivité, instabilité, lenteur digestive, accès de dépression, palpitations. Enfin, il y a une liste longue d'une page dans votre livre Le Printemps des Monstres de ces séquelles de retour de camp.
Tout ça pour avoir un peu d'argent, quoi. Quel cynisme, enfin... Bon, voilà, mais une chose est sûre, c'est que Jacques Salles, c'est un personnage complètement impénétrable. Presque tout dans sa vie, rien n'a de cohérence. Enfin, on a l'impression, vu d'ici, que, par exemple, sa femme, Marie-Madeleine, qu'il rencontre, était, elle, je pense, une vraie résistante. Enfin, elle n'a pas fait de la résistance, mais en tout cas, elle était vraiment contre les nazis. Ils passent leur vie ensemble, tout ça est très, très incohérent, je trouve. Donc, c'est pour ça que j'ai du mal à voir une logique là-dedans, ou de voir. J'ai du mal à voir une sorte de préparation pour laisser un grand mystère. Moi, je vois juste un type qui a avancé en courbant la tête de manière un peu. Je le vois, et puis même, c'est pour ça que je me rends compte que je suis de mauvaise foi, je le sais. Même sa tête, quoi. Je ne supporte même pas sa tête. Il a une tête de sournois, de perfide, de gluant. Mais ça, on en a énormément parlé avec Stéphane. Et c'est marrant parce que ce sont des choses qui me reprochaient un peu à l'époque, très gentiment. Hein, mais il me disait, tu interprètes tout en fonction de ta thèse de départ. Et puis maintenant, il se retrouve un peu là-dedans, Stéphane. C'est-à-dire que lui n'a pas arrêté. Moi, ça me touche beaucoup qu'il continue comme ça. Il a conscience qu'il s'enfonce dans une sorte de gouffre et qu'il n'y a rien au fond du gouffre. Mais à son tour, maintenant, c'est moi qui lui dis parfois qu'il interprète, qu'il désaxe certains faits ou indices qu'il trouve pour les décaler un peu, pour que ça rentre dans la ligne de sa thèse.
Cette thèse de Stéphane Troplin sur l'affaire Lucien Léger, c'est la théorie des réseaux. Réseau politique ou réseau d'espionnage souterrain qui rassemblerait Lucien Léger, Jacques Salles et Yves Taron, le père de la victime. Cette hypothèse des réseaux, personne n'y a jamais cru. Aujourd'hui, seul Stéphane Troplin continue de l'explorer en silence, risquant de s'enfoncer encore plus dans l'obscurité, l'imaginaire, la solitude et l'obsession.
Lucien Léger, il explique donc qu'il faisait partie de ces réseaux et qu'au cours d'une manifestation le 1er novembre 1961, place Maubert à Paris, une bombe a explosé sur le socle, au pied de la statue d'Étienne Delay à l'époque. Que c'est lui qui a placé l'explosif parce que ses acolytes, alors Molinaro ou Salles ou un autre, on ne sait pas bien, mais avaient apporté cette bombe et se comptaient la jeter sur les policiers. Lui n'était pas du tout d'accord, donc il leur a arraché des mains, il l'a déposé précipitamment contre le socle de la statue d'Étienne Delay où elle a explosé, cette petite bombe. Voilà les faits. Donc moi, j'essaie de trouver des photos et je tombe sur un fond photographique Et me voilà sur un bureau avec une table lumineuse et tout un ensemble de négatifs parce que j'essaie de retrouver Lucien Léger. Voilà. Et je demande à la rue des Archives de me faire des développements en positif. Et sur un des développements, là, je vois que la personne que je visais ressemble vraiment, vraiment beaucoup à Jacques Salles. Mais alors, vraiment beaucoup. La photo a été prise juste après l'explosion. On voit la statue d'Étienne Dolley en premier plan. Des policiers qui forment un cordon avec derrière des badauds. Et parmi ces badauds, un personnage qui se hausse un peu des pieds. Jacques Salles, c'était pas très grand. Donc, là, à partir de ce moment-là, je me dis, mais...